Chapitre 3. Comment un second cerveau fonctionne. C'est dans le pouvoir de la mémoire que réside l'ultime liberté du moi. Je suis libre parce que je me souviens. Abhinavagupta, philosophe cachemiri mystique du Xe siècle. Dites-vous que votre second cerveau est votre meilleur assistant personnel possible. Il est parfaitement fiable et toujours égal à lui-même. Il est en permanence prêt à enregistrer n'importe quelle information que vous jugerez intéressante. Il suit vos instructions, vous fait des suggestions utiles et vous rappelle ce qui est important pour vous. À quoi ressemblerait la fiche de poste d'un tel assistant personnel ? Quelles tâches lui confieriez-vous ? De la même manière que vous exigeriez un certain niveau de performance de la part de votre assistant, faites de même avec ce second cerveau. Vous devez avoir une idée claire de ce que vous attendez de lui pour savoir si oui ou non vous avez intérêt à le garder. De manière générale, comme le faisaient les mementos des créateurs au siècle passé, un second cerveau peut vous rendre plus intelligent, plus efficace et plus réfléchi. Dans ce chapitre, nous verrons comment les quatre avantages principaux d'un second cerveau vous serviront activement, que ce soit dans l'immédiat ou sur le plus long terme. Nous considérerons également l'outil de base dont vous aurez besoin pour vous lancer et la manière dont votre second cerveau évoluera au cours du temps pour se mettre au service de ce qui compte le plus pour vous. Enfin, j'exposerai les quatre étapes de la méthode CODE qui est au cœur de cette démarche. Les super-pouvoirs d'un second cerveau. Un second cerveau nous rend quatre services essentiels en nous aidant à 1. Concrétiser nos idées, 2. Mettre en lumière de nouvelles associations d'idées, 3. Faire germer de nouvelles idées, 4. Affûter nos perspectives dans leur singularité. Passons-les maintenant en revue, un à un. Super-pouvoir numéro 1, concrétiser nos idées. Avant que nous puissions faire quoi que ce soit avec nos idées, nous devons les décharger de notre esprit et leur donner une forme concrète. Ce n'est qu'en libérant notre cerveau de l'espace qu'occupent ces idées complexes que nous pouvons les manipuler de manière efficace et penser clairement. En 1953, le biologiste américain James Watson et le physicien anglais Francis Crick ont fait une découverte capitale. L'ADN avait une structure bicaténaire hélicoïdale. Leur découverte s'est appuyée sur les avancées d'autres pionniers, notamment celles de Rosalind Franklin et de Maurice Wilkins, sur la cristallographie aux rayons X, et ont pavé la voie de l'âge d'or de la biologie et de la génétique moléculaire. Si cette percée scientifique est bien connue, un aspect de cette histoire l'est beaucoup moins. Pour mener à bien leurs travaux, les chercheurs ont élaboré des modèles matériels, une approche empruntée au biochimiste américain Linus Pauling. Ils ont ainsi découpé des bouts de carton en leur donnant la forme approximative des molécules dont ils savaient qu'elles faisaient partie de l'ADN. Puis, comme avec un puzzle, ils ont tenté de les assembler de différentes manières. En permettant aux paires de bases complémentaires de s'emboîter à la perfection tout en respectant les ratios mesurés précédemment entre les éléments, la structure à double hélice s'est imposée comme la solution. C'est un point remarquable de l'une des plus grandes découvertes scientifiques du siècle dernier. Au moment clé, même des chercheurs chevronnés habitués à penser de manière abstraite et experts en mathématiques ont fait appel à l'outil le plus simple et ancien qui soit, la représentation matérielle. Les notes numériques ne sont certes pas physiques, mais elles sont visuelles. Elles permettent de transformer de vagues concepts en entités tangibles qui peuvent être observées, réarrangées, modifiées, et combinées. Elles ont beau n'exister que dans un monde virtuel, nous pouvons tout de même les voir de nos propres yeux et les déplacer avec nos doigts. Et comme les chercheurs Deborah Chambers et Daniel Reisberg l'ont constaté dans leur étude sur les limites de la visualisation, Les compétences que nous avons développées pour interagir avec le monde extérieur surpassent celles dont nous disposons pour gérer notre monde intérieur. Superpouvoir numéro 2. Mettre en lumière de nouvelles associations d'idées. Dans sa forme la plus concrète, la créativité consiste à connecter des idées, en particulier quand elles semblent n'avoir rien à voir de commun les unes avec les autres. Après avoir mené des recherches approfondies sur des individus particulièrement créatifs, incluant des scientifiques accomplis, des mathématiciens, des artistes et des écrivains, la neuroscientifique Nancy Andreasen a conclu que les individus créatifs excellent à identifier des relations et à former des associations et des connexions. En regroupant différents matériaux au même endroit, nous facilitons cette connectivité et augmentons la probabilité qu'une association inhabituelle nous interpelle. Des citations extraites d'un ouvrage de philosophie classique pourraient ainsi être groupées avec un tweet percutant. Des captures d'écran d'une vidéo YouTube pourraient être associées à des scènes de films classiques. Un mémo audio pourrait côtoyer des plans concernant un projet, un lien vers un site web utile et un PDF exposant les conclusions d'études récentes. Soit des associations de formats impossibles dans le monde réel. Si vous avez déjà joué au Scrabble, vous devez savoir qu'une des meilleures façons de trouver de nouveaux mots est de mélanger les lettres de différentes manières. Notre second cerveau nous permet de faire exactement la même chose. Vous pouvez y mélanger vos idées jusqu'à ce que quelque chose d'inattendu émerge. Plus le matériau ainsi regroupé sera hétéroclite et surprenant, plus vous aurez de chances de faire des associations originales. Superpouvoir numéro 3. Faire germer de nouvelles idées. Trop souvent, quand nous entreprenons une tâche, comme planifier un événement, concevoir un produit ou prendre une initiative, nous ne nous appuyons que sur les idées auxquelles nous avons accès sur l'instant. J'appelle ça « faire le gros du travail ». Attendre des résultats immédiats de la part de notre cerveau en l'absence de tout soutien. Même lorsque nous brainstormons, nous agissons de façon similaire. Pourtant, quelle est la probabilité que les approches les plus créatives et les plus innovantes soient celles qui nous viennent immédiatement à l'esprit? Ou encore que nous trouvions d'emblée la meilleure façon d'aller de l'avant? Cette tendance à favoriser les idées, les solutions et les influences auxquelles nous avons été exposés le plus récemment, indépendamment de leur valeur intrinsèque, est connue sous le nom de « biais de récence ». Imaginez maintenant que vous soyez capable de vous libérer des limites du moment présent et que vous puissiez bénéficier de semaines, de mois, voire d'années d'inventivité cumulée. J'appelle cette approche la cuisson à l'étouffée. Elle permet à vos pensées de mijoter telle une daube sur son fourneau. C'est une approche plus calme et durable de la créativité, reposant sur l'accumulation progressive d'idées et non sur une surconsommation frénétique ponctuelle. Au lieu de faire du temps votre ennemi, un second cerveau apte à sauvegarder beaucoup d'idées sur le long terme en fait votre allié. Superpouvoir numéro 4, affûter nos perspectives dans leur singularité. Jusqu'à présent, nous avons surtout parlé du fait de compiler les idées d'autrui, mais le but ultime d'un second cerveau est de permettre à vos propres pensées de briller. Une étude récente de l'Université de Princeton a montré que certains emplois sont peu susceptibles d'être remplacés par des machines dans les années à venir. Cependant, de façon surprenante, ce ne sont pas ceux qui demandent des compétences pointues ou des années de formation qui sont les moins menacés, mais ceux qui font appel à la capacité de fournir, non pas juste de l'information, mais une interprétation de celle-ci sous un angle particulier. En d'autres termes, les emplois les plus susceptibles de perdurer sont ceux qui impliquent la promotion ou la défense d'une perspective singulière, comme quand un responsable de collecte de fonds partage des histoires mettant en lumière l'impact que son association peut avoir, qu'un chercheur fait appel à des données pour étayer son interprétation d'une expérience, ou qu'un chef de projet cite quelques précédents clés pour justifier une décision. Nos carrières et nos entreprises dépendent plus que jamais de notre capacité à soutenir un point de vue particulier et à persuader autrui de l'adapter. Or, cela n'est pas qu'une question de charisme ou de charme. Cela demande aussi des arguments précis. Dans l'ouvrage de Tim Ferriss, « Les outils des géants, milliardaires, leaders, créateurs et champions vous livrent leurs secrets », le journaliste, auteur et cinéaste américain Sebastian Junger écrivait au sujet du syndrome de la page blanche « Ce n'est pas que je sois bloqué, mais plutôt que je manque d'éléments pour écrire avec puissance et autorité sur ce sujet. Cela m'indique non pas que j'échoue à trouver les bons mots, mais que je ne dispose pas des munitions nécessaires. » Le fait que vous vous sentiez bloqué dans vos projets créatifs ne signifie absolument pas que quelque chose cloche chez vous. Vous n'avez pas perdu votre savoir-faire ni n'avez épuisé votre capacité créative. Cela veut seulement dire que vous ne disposez pas encore de suffisamment de matériaux bruts pour pouvoir en faire quelque chose. Si vous avez le sentiment que votre puits d'inspiration s'est asséché, c'est parce que vous avez besoin de l'abreuver d'exemples, d'illustrations, d'histoires, de statistiques, de diagrammes, d'analogies, de métaphores, de photos, de cartes mentales, de notes de conversation, de citations, bref, de tout ce qui pourra vous aider à soutenir votre point de vue ou à vous battre pour une cause en laquelle vous croyez. Choisir une application de prise de notes. Le centre neurologique de votre second cerveau. La même technologie qui a alimenté l'explosion du volume d'informations sous laquelle nous croulons nous offre les outils pour la gérer. Votre second cerveau sera ainsi structuré autour de tous les outils que vous utilisez pour interagir avec l'information, comme, entre autres, une liste de choses à faire, un calendrier, une application de messagerie et une autre de lecture. Parmi tous ceux-ci, il y en a un que je vous recommande de placer au centre, une application de prise de notes. Entre celles gratuites préinstallées sur votre téléphone et celles que vous pouvez télécharger et qui comportent les fonctions que vous désirez, vous avez pléthore d'options à votre disposition. Qu'il s'agisse de Microsoft OneNote, de Google Keep, d'Apple Notes, de Notion ou d'Evernote, les applications de notes numériques possèdent quatre atouts puissants qui les rendent idéales pour se créer un second cerveau. Multimédia. Tout comme un carnet de notes papier peut contenir des dessins et des croquis, des citations et des idées, et même une photo ou un post-it collé, une application numérique de notes vous permet d'emmagasiner une large variété de contenus au même endroit, si bien que vous n'avez jamais à vous demander où stocker telle ou telle information. Informalité. Une note étant brouillonne par nature, inutile de perdre du temps à corriger vos fautes d'orthographe et de grammaire ou à la mettre en page. Notez les choses comme elles vous viennent à l'esprit, sans vous poser de questions sur la forme, ce qui est essentiel pour permettre à une nouvelle idée d'éclore. Durée indéterminée. Prendre des notes est un processus continu, sans limite de temps et sans nécessairement de but précis. Alors que les logiciels plus spécialisés sont conçus pour produire un résultat spécifique, par exemple un ensemble de diapos, des feuilles de calcul, des graphiques ou des vidéos, les applications de prise de notes sont l'outil idéal pour donner libre cours à une recherche d'idées avant même d'avoir un objectif clair en vue. Tourner vers l'action. Contrairement à une bibliothèque ou à une base de données, les notes personnelles n'ont pas besoin d'être exhaustives ou précises. Elles doivent vous permettre de capter rapidement les idées qui vous traversent l'esprit, de façon à ce que vous puissiez rester concentré sur la tâche en cours. Si les notes papier présentent aussi ces quatre points forts, ces derniers sont encore renforcés par la numérisation, notamment grâce aux capacités incroyables qu'offre la technologie. Recherche, partage, sauvegarde, édition, création de liens, synchronisation entre appareils, et bien d'autres choses encore. Autrement dit, les notes numériques permettent de combiner l'art de la tenue d'un carnet quotidien informel avec la puissance scientifique des logiciels modernes. En fonction des appareils que vous détenez, de vos besoins professionnels ou de ceux de votre entreprise, voire de votre propre tempérament et de vos goûts, choisissez les applications et outils qui vous conviennent le mieux. Le marché des produits informatiques est dynamique et en constante évolution. De nouvelles applications sortent régulièrement et celles existantes s'enrichissent sans cesse de nouvelles fonctionnalités. Vous trouverez un guide gratuit et continuellement mis à jour sur le choix d'une application de prise de notes et d'autres outils pour votre second cerveau sur www.buildingasecondbrain.com/resources. Vous utiliserez toujours toute une palette de logiciels pour gérer l'information et faire votre travail. Traitement de texte, plateforme de messagerie, outils de gestion de projet en vigueur dans votre entreprise. Mais votre application de prise de notes doit vraiment vous aider à gérer vos informations personnelles. Pour débuter, considérez les applications en votre possession que vous utilisez peut-être déjà. Vous pouvez toujours démarrer dès maintenant avec une version basique et monter en gamme par la suite, lorsque vos besoins se seront complexifiés. Le plus important est de ne pas se faire piéger par le perfectionnisme en repoussant le moment de commencer à prendre des notes au prétexte que vous devez d'abord trouver l'application parfaite qui inclura une liste précise de fonctionnalités. Le but n'est pas d'avoir à votre disposition des outils parfaits, mais des outils fiables sur lesquels vous pouvez compter en sachant que vous pourrez toujours en changer plus tard. Se souvenir, se connecter, créer. Les trois étapes de la gestion des connaissances personnelles. Quand une personne se décide à se fabriquer un second cerveau, je constate la plupart du temps que ce projet se déroule en trois étapes que je vous encourage moi-même à suivre. Se souvenir, se connecter, créer. Tirer pleinement profit de l'utilisation d'outils numériques pour étendre et rehausser les capacités de notre esprit prend du temps, mais chaque étape présente ses propres bénéfices. La première façon dont les gens ont tendance à utiliser leur second cerveau est en tant qu'aide-mémoire. Ils se servent de leurs notes numériques pour sauvegarder des faits et des idées qu'ils auraient du mal à retenir autrement. Par exemple, les éléments saillants d'une réunion, des citations tirées d'interviews ou encore les détails d'un projet. Camille est la cofondatrice et la designer en chef d'une start-up québécoise. Elle utilise son second cerveau pour sauvegarder des éléments tirés des nombreux rapports d'études et articles scientifiques qu'elle lit dans le cadre de son travail sur le design de bornes de recharge électrique pour immeubles résidentiels. La plupart de ces rapports sont publiés sous forme de PDF, un format connu pour sa rigidité et sa difficulté d'utilisation, mais en important les éléments qu'elle juge les plus pertinents dans ses notes, elle peut ensuite les annoter et les commenter à loisir. La deuxième façon dont les gens utilisent leur second cerveau est pour connecter des idées entre elles. En plus d'être un outil de mémorisation, le second cerveau est un outil de réflexion. Comme lorsque l'on se trouve dans une autre équipe, face à une situation déjà vécue et que le conseil d'un mentor devient utile. Ou comme lorsqu'une métaphore éclairante tirée d'un livre trouve sa place dans une présentation que l'on est en train de monter. Les idées glanées de ci, de là, se mettent à graviter les unes vers les autres et à se polliniser mutuellement. Fernando est oncologue dans un hôpital de renommée mondiale. Il se sert de son second cerveau pour organiser ses notes sur ses patients. Il résume les points essentiels du dossier médical de chacun d'entre eux, en notant en particulier depuis combien de temps la personne est malade, les traitements administrés et les caractéristiques de la tumeur. Son second cerveau lui permet de connecter ce qu'il a appris durant sa formation et ses recherches avec les besoins de ses patients pour pouvoir mieux les soigner. Enfin, la troisième et dernière façon dont les gens se servent de leur second cerveau est pour créer de nouvelles choses. En prenant conscience de tout ce qu'ils savent sur un sujet donné et de tout le matériau dont ils disposent, ils peuvent décider de transformer ce savoir en quelque chose de concret et de partageable, et s'enhardir à exposer leurs propres idées pour avoir, ce faisant, un impact positif sur autrui. Terrel est ainsi un jeune papa de 3 enfants, occupant un poste exigeant dans une grande entreprise de la tech au Texas. Après avoir suivi ma formation, il s'est servi de son second cerveau pour lancer une chaîne YouTube où il partage des anecdotes et des conseils sur la parentalité. Par exemple, il a réalisé des vidéos expliquant comment voyager à l'étranger avec des enfants ou comment déposer une demande de congé paternel. Et il a partagé des clips vidéo d'escapades en famille. Le fait qu'il a pu conserver trace de toutes ses idées de vidéos et des détails de leur production en dehors de son cerveau physique a été crucial pour lui permettre de travailler de concert sur ce projet personnel et sur ses dossiers professionnels, tout en réservant du temps pour ses enfants. Son second cerveau lui sert à s'exprimer et à créer du contenu. Chacun de ces individus a utilisé la technologie pour se souvenir, se connecter et créer de façon bien plus efficace que s'il avait dû ne compter que sur son cerveau biologique. Leur second cerveau leur a permis d'enrichir leur vie à n'importe lequel de ces stades. À mesure que ceux-ci changent, ils pourront utiliser leurs notes de façon différente pour qu'elles continuent d'être utiles et à propos.